Bonjour tout le monde. Très, très, très heureux d'être avec vous ce matin. Rapidement, Marco a demandé que je puisse me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est René Boisvert. Je vais vous partager trois volets de ma vie. Le premier, familial. J'ai une épouse depuis 30 ans. On a célébré nos 30 ans de mariage cet été. On a été bénis à travers ce mariage-là avec deux magnifiques filles. J'ai une fille de 27 ans qui est mariée, elle aussi, qui sert le Seigneur avec son conjoint à l'église Nouvelle Vie à Cap-de-la-Madeleine. J'ai une deuxième fille qui, elle aussi, est mariée et elle sert le Seigneur à Renew Church en Ontario. Son conjoint vient de là, puis évidemment, c'est lui qui a gagné, c'est pas nous autres. j'ai l'immense privilège d'être grand-papa. J'ai un petit-fils qui a 10 mois, qui va avoir, même il y a 11 mois, il va avoir un an au mois de septembre. Là, ils sont chez nous à la maison depuis deux semaines, donc on profite de la petite famille. Dans mon domaine séculier, j'ai pris la relève de mon père et avec ma tante, j'ai mes cousins, j'ai ma femme, puis j'ai une de mes filles qui travaille aussi à l'entreprise. On est dans la construction, plus précisément dans le domaine des portes et fenêtres, donc les ouvertures Saint-Boniface. Peut-être que certains ont déjà vu ou entendu parler de cette compagnie-là. Donc, c'est mon travail séculier. Et dans ma vie spirituelle, eh bien, moi, je vais à l'église de Trois-Rivières-Ouest, les frères de Trois-Rivières-Ouest. Je suis ancien à cette église-là. Mon ministère principal, c'est dans l'enseignement, la prédication. Généralement, je prêche environ deux dimanches par mois. Mon épouse est impliquée également avec la jeunesse, est impliquée aussi dans la musique. Donc, ça, c'est notre implication à cette église-là. Et une des raisons pour lesquelles je suis ici ce matin, c'est pour un autre ministère qui me tient énormément à cœur, dans lequel je suis impliqué. J'ai perdu un peu le fil du temps, mais ça doit faire au moins une quinzaine d'années que je suis impliqué dans ce ministère-là, la Villa du Carmel. J'ai commencé à servir à la Villa parce que mes filles voulaient y aller. Ma plus vieille voulait y aller, mais elle ne voulait pas couper le cordon. Ou sa maman ne voulait pas couper le cordon. Je ne sais pas trop encore comment c'est arrivé. Donc, pour qu'elle puisse y aller, ben, avec mon épouse, on a décidé d'aller servir. On a commencé dans la cuisine. Donc, on était là avec les enfants, donc ils pouvaient participer aux activités, puis moi et mon épouse, on servait à la villa. Et de fil en aiguille, pour ceux qui connaissent la villa, quand tu mets ton bras dans l'engrenage, c'est impossible de le sortir de là. Ce qui a fait en sorte que quelques années après avoir commencé à éplucher des patates et des carottes, et je me suis retrouvé président du conseil d'administration, impliqué dans beaucoup, beaucoup de camps, c'est un peu notre thème à la villa, hein? Mets ton bras dans l'engrenage, puis tu ne peux plus le ressortir, c'est impossible. On t'accroche, puis on va te garder avec nous autres. Donc, ce matin, ce que je veux faire avec vous, puis je tiens sincèrement à remercier la direction de m'avoir invité, je vais vous présenter rapidement le ministère de la villa, vous donner quelques nouvelles sur ce ministère-là, et évidemment, on va prendre un temps également dans la parole de Dieu, les deux ministères qui me tiennent beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur. Donc, commençons par la Villa du Carmel. Mes dernières présentations, je prenais beaucoup, beaucoup de temps à parler de nos dernières infrastructures qu'on a améliorées. Je pourrais faire pareil ce matin. Je pourrais vous parler qu'on a amélioré notre ligne électrique, qui nous empêchait même d'avoir un toaster. Tu sais, on était au bout de la ligne électrique. Là, maintenant, on est correct. Ça nous a même permis d'avoir un parc de roulottes. Donc, vous êtes bénévole, vous avez une roulotte. Viens parquer ta roulotte là, puis tu vas pouvoir passer l'été à la villa. Je pourrais vous parler qu'on a fini notre nouveau chalet. Je pourrais vous parler qu'on a aménagé notre stationnement, qu'on a fait des aires gazonnées, qu'on a ajouté une tyrolienne pour les tout-petits, qu'on a une aire de pique-nique à l'extérieur, des jeux qui ont été ajoutés. Donc, je pourrais vous parler pendant 15-20 minutes de nos infrastructures. Et là, vous allez vous dire, OK, la Villa du Carmel, c'est un camp de vacances où ils gèrent des infrastructures. Puis, c'est pas ça. Je pourrais aussi vous parler de notre prochain projet. Ça nous prend une fosse septique. On n'a pas le choix. La ville nous dit, si tu veux faire de nouveaux projets, ça te prend une fosse septique. Et priez pour ça, parce que la fosse septique va nous coûter 300 000 $. Bien, on est dans une place où il y a trois grenouilles à tête noire avec les yeux rouges et des couleuvres avec des pitons verts dessus. Fait qu'il faut faire attention où est-ce qu'on met notre fosse, puis il faut qu'on gère ces trois, quatre animaux-là. Donc, c'est un gros, gros, gros projet. Mais en fait, la villa, c'est pas ça. On n'est pas des adultes qui se réunissent pour gérer des infrastructures. La villa, c'est un camp de vacances où on prêche l'Évangile. C'est ça, la villa du Carmel. La villa, ça répond à ce que le Seigneur Jésus a dit en Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations, quoi? Des disciples. » C'est ça qu'on fait à la villa. C'est pour ça qu'on s'implique à la villa. Et ce que je veux faire avec vous, je veux qu'on fasse le tour de ce qui se passe en un an à la villa. Parce que certains peut-être pensent que c'est uniquement les camps de vacances. Ça dure 6 semaines l'été, puis le reste de l'année, on s'assit et on attend. C'est pas ça. Et oui, la villa, c'est des camps d'été. C'est sûr. C'est 6 semaines magnifiques où il y a plein de monde qui s'investissent. On a plein d'adultes qui viennent au camp. On a plein de jeunes qui, au lieu d'aller travailler chez IGA, vont venir servir pour annoncer l'Évangile. Puis encore cette année, on a eu environ 350 à 375 inscriptions. On avait plus d'espoir. On espérait remplir à 100% la capacité de nos camps. Mais Dieu avait un autre plan pour nous. Peut-être qu'ils pensaient qu'on se serait enorgueillis si on avait rempli nos camps et on aurait été comme fiers de ça. Mais au lieu de ça, on était peut-être à 90 % de capacité. Mais 80 nouveaux jeunes qui n'étaient jamais venus à la villa se sont inscrits cet été. Ça, c'est magnifique. C'est extraordinaire de penser que sur 375, il y en a 80 qui n'étaient jamais venus à la villa, qui ont peut-être entendu pour la première fois l'Évangile. Il y a une graine qui a été semée dans le cœur de ces jeunes-là. Oui, merci. Et ça, on rend grâce au Seigneur parce qu'ils ont besoin de l'Évangile, les jeunes. Puis c'est le but de la Villa du Carmel. Donc, c'est ce qui s'est passé durant cet été. Puis vous voyez là quelques photos. On a ici Lauriane, pour ceux qui la connaissent. Un des aspects super importants durant les camps d'été, c'est les présentations le soir où on va avoir des chants, l'Évangile qui va être prêché. Donc, pensez à ça. Tout près de 400 jeunes qu'on évangélise 2 fois par jour pendant 5 jours par semaine. C'est ça, les camps d'été à la Villa du Carmel. Mais c'est beaucoup plus que ça. On a aussi 3 semaines de camp durant l'hiver où on va séparer les groupes, là, les tout-petits, les moyens puis les ados. Moi, ça fait plusieurs années que je vais être l'enseignant pour les ados. Puis on a tellement du bon temps avec eux. Puis une des choses qu'on fait avec les ados, tu sais, on essaie de leur faire un camp un peu particulier pour eux, là. C'est nos plus vieux, puis on veut frapper leur imaginaire, puis on veut qu'ils aient le goût d'avenir, puis on veut qu'ils disent aux plus petits, là, toffer, puis aller jusqu'aux ados, parce que c'est super le fun. On les amène toujours le samedi midi, on les amène toujours manger à la rivière. Port de la villa, c'est peut-être 1 ou 2 kilomètres là, qu'on marche, puis après ça, on va avoir une belle grande glissade là, où c'est dangereux de mourir quand on arrive en bas. Puis après ça, on est sur le bord de la rivière. Puis on lui fait toujours un snack particulier. Et l'année passée, on lui a fait des poutines. Mais pas n'importe quelle poutine. Là, vous le voyez, là, oignon caramélisé, bacon, jambon, puis tout le gros stock. Là. C'est extraordinaire pour eux, qu'est-ce qu'on fait. Là. Je veux dire, on descend en bas à la rivière, ils arrivent là, il y a un feu qui les attend. Puis là, tout notre staff travaille fort, puis amène tout le stock, puis on lui fait de la poutine. Donc, on essaie vraiment de frapper l'imaginaire pour ces jeunes-là. Avant le camp de survie, on a aussi le camp 0-100. Ça, c'est pour les adultes. Et 0-100, c'est vraiment, tu as entre 0 et 100 ans, tu es le bienvenu. On va s'occuper de toi. Il n'y a pas de camp familial. Il y en a beaucoup durant l'été, mais on n'en a pas durant l'hiver. Puis nous, on en fait un à la villa, la 4e semaine. De notre camp d'hiver, c'est le camp 05, camp familial pour les adultes. Et encore là, l'Évangile est prêché, mais c'est beaucoup plus pour faire grandir puis que la foi s'affermisse dans l'Écriture. On fait aussi un camp de survie, quelque part, là, à fin mars. Là, on veut qu'il reste encore de la neige, on veut qu'il fasse encore froid, on ne veut pas que ce soit facile. Là, où on prend les jeunes puis on leur donne une pomme, une barre tendre, 3 allumettes puis 1 litre d'eau. Débrouille-toi avec ça pendant 3 jours de temps. Évidemment, on les surveille, on fait attention. Il n'y a personne qui va mourir de faim là. Puis au travers des notions de survie, évidemment, on veut les éduquer avec ça, mais on leur donne aussi un temps vraiment particulier pour être avec le Seigneur. Ils ont un petit livre qu'ils doivent remplir. Là, ils sont tout seuls. Tu sais, quand tu as trouvé du bois pour ton feu, après ça, tu as toute la journée pour juste prier, lire, remplir ton questionnaire. Donc, on veut vraiment aller chercher ces jeunes-là puis les amener au Seigneur au travers un camp comme celui-là. Même la première année, je pense qu'on le fait encore, mais ça, je ne suis pas sûr, mais la première année, on leur a donné un petit lièvre. Il n'y avait pas juste une barre tendre et une pomme, on leur a donné un petit lièvre vivant, puis on leur a montré comment s'en occuper pour pouvoir être nourri durant la fin de semaine. Ce qui devait arriver, arriva, une des campeuses est repartie avec. Elle s'en est fait un ami, puis il était pour question qu'elle le mange, puis elle est partie avec son petit lièvre à la fin du camp. Mais c'est un super de beau moment où ce que les jeunes passent toutes seules avec Dieu, puis après ça, il y a un petit briefing qui est fait là, avec eux, avec celui qui s'occupe de ce camp-là. On fait toujours aussi notre cabane à sucre annuelle. Ça peut paraître bizarre. Pourquoi une cabane à sucre dans un camp de vacances? Puis est-ce qu'on prêche vraiment l'Évangile? Eh bien, cette année, pour la première fois, on a ouvert notre camp aux inconvertis. On a fait un seul service, 200 personnes. C'était quelque chose. Moi, je suis là toutes les années au service. C'est moi qui gère les serveurs. Puis 200 qui veulent des crêpes, là. C'est du sport. Mais pensez à ça, on est un camp de vacances, chrétien, on annonce une cabane à sucre, puis on a eu des inconvertis autour de Mont-Carmel qui sont venus. C'est quoi vous faites ici? C'est quoi ce camp-là? Puis, on a réussi à prêcher l'Évangile de cette façon-là, puis dire aux gens c'est quoi la Villa du Carmel au travers une cabane à sucre. Puis c'est complet, là. Le repas, il est complet. On a de la tire à l'extérieur. Même cette année, on a rajouté plein de jeux de kermesse qui ont été fabriqués. Donc, les gens, ils viennent pas juste s'asseoir, ils mangent, puis ils partent. Ils passent un temps sur la Villa. Donc, on a la possibilité de leur expliquer qu'est-ce que c'est que la Villa. On a aussi deux fois par année, au printemps et à l'automne, ce qu'on appelle le vendredi soir, samedi soir, feu de camp. C'est un événement qui est unique et à peu près toutes les années, on a entre 100 et 150 inscriptions. Ça, c'est 150 jeunes qui, un samedi soir, au lieu d'aller le passer, je ne sais pas où, ils viennent à Villa. Évidemment qu'on prêche l'Évangile. Par des chants, on va leur faire également des témoignages. Il y a des prédications qui sont faites. Puis vraiment, ils sont placés devant l'Évangile lors d'une activité comme le feu de camp. Et la particularité du feu de camp, c'est qu'on leur sert des hot dogs après toute la partie spirituelle. On leur sert les hot dogs pendant le feu de camp. Et l'année passée, avec mon ami Steve, on a fait 175 hot dogs. On a senti la saucisse pendant une semaine. Et l'année passée, j'ai inventé, puis là, je cherche un moyen d'homologuer ça, le double dog. 3 pains, 2 saucisses. Mais moi, j'ai pensé à mon affaire. À chaque double dog, je sauve un pain. Tu sais, dans 20 ans, là, l'économie que je vais avoir faite, ça va être vraiment extraordinaire, là. Ça pogne. Ils sont contents, les jeunes. Ils ont un... Mais ça prend une grande bouche, on s'entend, là. Mais c'est tout genre de petites choses comme ça qu'on va faire avec eux. Ça, vous le voyez, c'est ce qui se passe au feu de camp. On se sert de notre magnifique stage à l'extérieur pour pouvoir faire l'enseignement puis la musique. Hey, Joseph! Pêche en herbe. Ça, c'est vraiment le fun. C'est une fois par année. C'est toujours vers la fin de semaine, le 8, 9, 10 juin. Là, c'est tout dans le Québec. C'est la journée de la pêche en herbe. Puis nous, on est associés avec le gouvernement du Québec pour recevoir des subventions puis avoir aussi des permis. Les 100 premiers jeunes qui s'inscrivent en bas de 18 ans reçoivent leur permis de pêche jusqu'à l'âge de 18 ans. Cette année... moi, les pêcheurs, là, écoutez, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration pour eux. Là. Moi, j'achète le... Moi, mon lac, là, c'est IGA. C'est le fun, il est tout préparé, il me reste rien qu'à le mettre dans la poêle. Cette année, il mouillait, ça n'avait aucun sens. On s'est dit, on cancelle, ça ne donne rien. Non. À 6 heures, habillés de la tête aux pieds avec leurs habits, les pêcheurs sur le bord du lac. Mais pourquoi je vous en parle? C'est parce que ça fait plusieurs années qu'on essaie d'avoir la municipalité de Mont-Carmel qui s'associe avec nous, mais ils disent toujours non. C'est chrétien, puis c'est ci, puis c'est ça. Bon, vous connaissez tout ce qui se passe au Québec. Mais cette année, ils sont venus nous voir, tout hébétés, de nous dire « Comment ça se fait, vous ne nous en avez jamais parlé? » C'est là qu'on a mis en pratique de se tourner la langue 7 fois avant de parler. Non seulement ils se sont associés à nous, mais ils ont fait notre publicité. Sur un grand panneau, oui, gloire à Dieu. Pour ceux qui connaissent Mont-Carmel, là, sur le coin Saint-Flavien puis la 157, il y a un gros panneau là, qui a tout à la publicité. Là. Il y avait notre publicité, Villa du Carmel, pêche en herbe. Puis c'était comme, tu sais, allez-y, là, c'est l'activité à avoir dans le coin. On a persévéré avec cette activité-là, même si on avait des embûches à chaque année par la ville. Puis là, cette année, Dieu a fait comme, OK, moi, je vais vous aider. Puis c'est la ville qui vient nous trouver, puis on dit comme, OK, on veut participer à votre activité. Puis c'est plein, là. Le lac est plein, il y a plein de monde autour. Puis nous, on a juste notre kiosque qui est là, puis... C'est quoi vous faites? C'est quoi ça, la vie-là? Pourquoi vous nous accueillez? Ça nous permet de présenter l'Évangile, d'avoir des gens qui s'interrogent sur c'est quoi le camp. Puis il y a même des jeunes qui s'inscrivent cette journée-là au camp parce qu'ils sont intéressés par qu'est-ce qui va se faire. Ensuite, à l'automne, on a toujours notre fameuse conférence jeunesse qui varie tout le temps à peu près entre 175 et 200 inscriptions. L'année passée, là, on ne savait même plus où coucher le monde. Il a fallu arrêter les inscriptions parce que là, coucher les jeunes à terre dans le gym, c'est pas super. Nous, que ça dérange pas. Moi, ça me dérange un peu, fait qu'on a géré ça. Mais c'est magnifique de voir tous ces jeunes-là qui viennent passer la fin de semaine. Fait que vous voulez savoir quoi faire à l'Action de grâce, venez à Villa. C'est notre conférence jeunesse. Et à tous les samedis soirs, on fait toujours notre appel. Et à chaque samedi soir, il y a des jeunes qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Moi, c'est pour ça que je continue. C'est pour ça que je m'implique à cette fin de semaine-là. Même si c'est difficile, après la semaine de travail, tu vas passer 3 jours là-bas, puis après ça, tu retournes travailler. Mais c'est pas grave, parce que le samedi soir, quand tu dis « Y a-tu quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? » Il y a des jeunes qui lèvent leurs mains. Cette année, avec Martin Jalbert, on va avoir le privilège de prendre la parole et on va prêcher sur le fils prodigue. La parabole du fils perdu. Donc, priez pour cette activité-là qui s'en vient, qu'on puisse avoir des jeunes qui viennent pour entendre l'Évangile et donner leur vie au Seigneur. Donc, images de la conférence jeunesse. Ça, c'est là 3 ans. On avait loué une machine à mousse. Puis on a fait une activité avec ça. Fait qu'on essaie tout le temps de renouveler aussi nos activités pour frapper leur imaginaire puis qu'ils gardent en souvenir quelque chose concernant la vie-là. Une nouvelle fin de semaine qu'on a, qui commence, ça va être la première année qu'on va faire ça. Je ne sais pas si votre pasteur jeunesse est ici. S'il n'est pas là, prenez en note et vous lui ferez le message. Dernière fin de semaine d'octobre, donc la fin de semaine de l'Halloween, la fin de semaine où on recule l'heure. On fait une conférence pour la première fois du vendredi au dimanche. Je sais, là, Marco a annoncé une autre fin de semaine là, où il y a quelque chose pour l'évangélisation, là. Bien, splittez ça, là. C'est pas grave, là, tu sais, je veux dire, vous pouvez là, splitter. Et notre conférence qu'on va faire, elle est pour les jeunes adultes. Il n'y a pas de camp réservé comme ça durant l'automne pour les jeunes adultes. Là. Tu sais, du 18, 19, 20 ans jusqu'à 25, 26, 27 ans, là, il n'y a rien qui les touche directement, puis on va le faire là, cette année à la Villa. Et le thème, ce sera « Comment servir le Seigneur ». Je vais avoir le privilège de prêcher durant cette fin de semaine-là. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur, le service. Moi, je suis un doueur. Moi, je veux faire. Moi, je veux travailler. Moi, je veux m'impliquer. Puis je veux transmettre ça à l'autre génération. Je veux qu'on puisse avoir des jeunes pour qui le service pour le Seigneur est important, pour garder la pérennité de nos ministères, de nos églises, de nos organismes, pour qu'on ne se réveille pas dans 5, 10, 15, 20 ans avec plus personne prêt à servir. J'ai transmis ça à mes filles, puis aujourd'hui, ils servent dans leur église. Puis je veux transmettre ça à l'autre génération, puis cette fin de semaine-là va servir à ça. Oui, tu es jeune, oui, tu vas peut-être bientôt te marier, tu es dans un choix de carrière, peut-être que tes enfants s'en viennent, mais mets le Seigneur en priorité, puis sers-le. Ça va être ça, la conférence en fin de semaine. Puis, durant cette fin de semaine-là. Puis, on va avoir un thème. Vous allez voir qu'on est super intelligent à la Villa. On travaille très, très fort pour trouver des idées. C'est le fin de semaine qu'on recule l'heure. Puis notre publicité, ça va être « Viens à la Villa, on te donne 1 heure gratis. » On y a pensé longtemps. Fait que c'est ça, le ministère de la Villa du Carmel. Priez pour cette œuvre-là. Venez vous impliquer de toutes les façons que vous pouvez le faire. On a toujours quelque chose à faire pour vous. Évidemment, on a besoin de vos prières, on a besoin de vos bras, on a besoin de votre argent parce qu'on a toujours des choses qu'on veut faire. Mais priez pour ce ministère-là parce qu'on prêche l'Évangile à des jeunes. Et année après année, depuis 30 ans maintenant, il y a des jeunes qui donnent leur vie au Seigneur. Puis il y en a d'autres qui affermissent leur foi. Et j'en parlais justement ce matin avec ma fille qui était là. Mais elle m'a dit, papa, elle dit, tu sais, la vie là, elle dit, des fois, il y a plein de gens qui vont là puis ils viennent de familles chrétiennes. Oui, mais ils viennent affermir leur foi. Pas parce que tu grandis dans une famille chrétienne, c'est pas parce que tu grandis à l'Église. Des fois, ça prend la vie là où tu fais comme, OK, là, je viens de comprendre. Et là, je vais donner ma vie au Seigneur. On voit beaucoup dans les témoignages des jeunes qui se font baptiser, passer dans leurs témoignages, qui sont venus quelque temps à la vie là et que c'est là qu'ils ont compris, puis qu'ils ont approfondi, qu'ils ont fait grandir leur foi. On a même ce travail-là aussi qu'on fait avec le staff qui vient. Pendant 2 semaines cet été, le soir, je prenais 1 heure à tous les soirs avec le staff pour les enseigner dans les Écritures, pour les faire grandir. Donc, ils viennent, ils sont déjà croyants, mais on veut que leur foi s'affermisse et qu'ils grandissent en Jésus-Christ. Donc, priez pour cette œuvre-là, elle me tient énormément à cœur. Mon épouse aussi est impliquée dans le ministère. Puis que Dieu puisse juste pourvoir à la vie là. On est des outils entre ses mains, tout simplement, et c'est lui, c'est son œuvre, c'est pas la nôtre. Mais qu'elle puisse grandir et surtout qu'elle puisse amener des âmes au Seigneur encore en 2026 et pour les années futures. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais maintenant passer, je vais mettre mon deuxième chapeau pour vous ce matin, avec les quelques minutes qui me restent devant moi. Je vous invite à tourner dans l'Épître aux Hébreux. On va lire un passage dans le chapitre 4, les versets 14 à 16, où on a tellement un bel encouragement pour nous aujourd'hui. Elle était directement reliée à ce que les croyants de cette épître-là vivaient, des persécutions, des difficultés, des épreuves, des tentations. On vit toutes ces choses-là aussi aujourd'hui. Puis comment on s'en sort? Comment on fait pour passer au travers de ces moments-là? Bien, la solution, elle est donnée par l'auteur. On s'accroche à Jésus-Christ. Puis on se tourne vers Jésus-Christ. Donc, Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 14. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Permettez-moi de prier, s'il vous plaît. Père Céleste, Seigneur Dieu, encore une fois ce matin, on est privilégié, Seigneur, d'ouvrir ta parole. Seigneur, on a besoin que tu nous parles ce matin. On a besoin d'entendre ce que tu as à nous dire au travers de ce passage-là. Puis je veux bénir ton nom parce que tu as inspiré l'auteur pour nous parler du grand souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. Qui a été tenté en toutes choses. Il compatit maintenant à nos faiblesses, à nos difficultés. Et si ce matin, il y a quelqu'un dans l'Église qui souffre, qui passe par des difficultés, Seigneur, parle à leur cœur avec ce texte-là. Que ce ne soit pas moi qui parle, que ce ne soit pas mon autorité, mais que ce matin, ta parole ait autorité dans nos vies. Je veux me cacher derrière ta croix et que ce soit tes paroles qui soient dans ma bouche. Seigneur, bénis le temps qu'on a ensemble et bénis ta parole dans nos vies. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Si mon professeur d'herméneutique avait été ici ce matin, j'aurais échoué mon examen parce qu'il m'avait. On a toujours dit, on ne commence jamais une lecture par un mais, un car, un ou un ainsi. Et le début du verset 14 commence par ainsi. Mais je dirais à mon prof d'herméneutique, ce ainsi-là va me permettre de placer un peu le contexte de l'Épître aux Hébreux et le contexte des quelques chapitres qui ont été partagés jusqu'à maintenant par l'auteur. L'argumentaire de l'auteur qu'on retrouve dans les versets 14 à 16 est basé sur tout ce qu'il vient de dire et sur le contexte général de l'Épître aux Hébreux. Je vous le donne rapidement, le contexte général de l'Épître aux Hébreux. L'auteur écrit à des croyants juifs. Donc, c'était des juifs qui vivaient dans le judaïsme. Vous comprenez qu'ils pratiquaient les sacrifices, qu'ils vivaient avec un souverain sacrificateur, donc qu'ils vivaient dans la religion juive. Ils se convertissent au christianisme. Là, leur vie change du tout pour tout, complètement. Leur vie change tellement qu'ils vont commencer à subir des persécutions. Un Juif qui abandonnait le judaïsme, se tournait au christianisme, allait subir des persécutions, qui pouvait aller jusqu'à même être renié de sa famille. On tassait complètement cette personne-là, on ne voulait plus rien savoir de lui. Ces croyants-là, à qui l'auteur écrit, pour pallier à ces persécutions-là, à ces difficultés qu'ils vivaient, se sont dit, on a une idée, on va retourner dans le judaïsme, quelque temps, on va laisser passer les persécutions, et quand tout ça sera terminé, on retournera dans le christianisme. Une bonne idée. L'auteur lui dit, non, c'est pas ça que vous allez faire. C'est pas vers là que vous allez aller. Vous allez persévérer dans le christianisme. Parce qu'en Jésus-Christ, vous avez ce qu'il y a de meilleur. Et c'est ça qu'il va, débattre dans les quatre premiers chapitres. Jésus est supérieur en révélation. Jésus est supérieur à Moïse. Jésus est supérieur aux anges. Jésus offre un repos supérieur. Et plus loin, dans le reste de l'Épître, il a un sacerdoce supérieur. Il est un plus grand souverain sacrificateur. Il est le médiateur d'une meilleure alliance. Pourquoi retourner au judaïsme quand vous avez goûté à ce qu'il y avait de meilleur? Restez dans le christianisme. Mais c'est dur pour eux. Puis je les comprends. Combien de fois on voit des gens, puis peut-être même que ça nous a traversé l'esprit au travers des difficultés, de dire, « Ouais, mais pourquoi je continuerai? Pourquoi je vais persévérer? » Mon voisin, il ne suit pas le Seigneur, il ne vient pas à l'église, il ne lit pas la Bible, il ne prie pas, il ne sert dans rien, puis lui, tout va bien. Mais l'auteur dit à ces croyants-là, persévérez, parce qu'en Jésus-Christ, vous avez ce qu'il y a de meilleur. Et l'autre point aussi qui est important de savoir, pourquoi l'auteur nous parle d'un souverain sacrificateur, c'est que pour le Juif, le rôle du souverain sacrificateur est primordial dans le judaïsme. C'est lui, le souverain sacrificateur, qui était choisi par Dieu et qui était placé par Dieu pour faire le lien entre les hommes et Dieu. Il était ce tampon-là entre l'homme et Dieu, le souverain sacrificateur. Écoutez, il était tellement important, juste vous rappeler que dans la période du sacerdoce en Israël, Dieu désignait des sacrificateurs pour servir de médiateurs entre lui-même et son peuple sous l'ancienne alliance. Seul le souverain sacrificateur pouvait offrir le plus grand des sacrifices, et ce uniquement une fois par an, le jour des expiations ou le Yom Kippour, tous les péchés du peuple étaient placés sur le propitiatoire dans le lieu très saint. Vous savez, dans le temple, dans l'Ancien Testament, il y avait le lieu saint, une trolée de rideaux, on ouvrait les rideaux, on rentrait de l'autre côté, c'était le lieu très saint dans lequel il y avait l'arche, le couvert, le propitiatoire, puis il y avait un paquet de trucs qui étaient là. Puis là, le souverain sacrificateur, une fois par an, traversait ce grand rideau-là et allait déverser le sang du sacrifice des animaux qu'il avait fait juste auparavant pour que les péchés du peuple soient pardonnés dans le lieu très saint. Le souverain sacrificateur était tellement important qu'avant de rentrer dans le lieu très saint, on accrochait des cloches à ses pieds et une corde. Et quand on n'entendait plus les cloches, ça voulait dire qu'il était mort. Il n'y a personne qui pouvait aller le chercher. On tirait sa corde. Il y a juste le souverain sacrificateur qui pouvait aller là. Il y a vraiment un rôle particulier, le souverain sacrificateur, dans le judaïsme. Les Juifs à qui l'auteur écrit, qui vivent des persécutions, qui sont habitués de vivre avec ce lien-là du souverain sacrificateur, ont probablement demandé, se sont probablement questionnés, « OK, oui, c'est beau le christianisme, mais n'avez-vous un souverain sacrificateur dans le christianisme? » Et là, l'auteur répond. Non seulement il répond, « Oui, on en a un, mais voici ce qu'il fait. » Ça, c'est le « ainsi ». Et qu'est-ce que l'auteur nous dit? « Nous avons un grand souverain sacrificateur. » Moi, j'aime ça. Passe pas par quatre chemins, direct. « Nous avons. » Vous voulez savoir s'il y en a un souverain sacrificateur dans le christianisme? Eh bien, oui, il y en a un. « Nous avons. » Et littéralement, dans le texte original, le « nous avons » là est emphatique. Ce que l'auteur veut vraiment qu'on comprenne, l'emphase est mise sur le fait qu'on en possède un souverain sacrificateur. Et le terme utilisé, l'expression utilisée, non seulement elle est emphatique, mais ça a le sens qu'on jouit d'une relation avec le souverain sacrificateur. Il est à notre disposition et on peut en jouir de ce souverain sacrificateur-là. Nous pouvons entrer en communion avec lui. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on possède, c'est quelque chose avec lequel on peut aller en relation. Nous avons. Mais qu'est-ce qu'on a, l'auteur nous dit? Nous avons un grand souverain sacrificateur. Normalement, on aurait dû seulement lire « Nous avons un souverain sacrificateur ». Le premier grand, il n'est pas nécessaire. Littéralement, pour que vous compreniez pourquoi ça ne fait pas de sens, c'est comme si l'auteur disait « Nous avons un grand, grand souverain sacrificateur ». Ce qui est intéressant, c'est que le mot « grand », puis vous allez le comprendre en grec, c'est « méga ». Hey, j'ai eu une méga journée hier, il y a eu une méga tempête. Tu sais, quand on ne trouve pas d'expression pour dire à quel point c'était grand, ou à quel point c'était beau, ou à quel point c'était extraordinaire, hey, c'était méga. Bien, je pense que l'auteur, c'est juste, il n'y avait pas de mot pour décrire Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur. Puis ce qu'il a dit, c'est que c'est un méga grand souverain sacrificateur. Il n'y avait pas de mot pour le décrire. Donc, il est allé chercher dans la langue originale ce qu'il y avait de plus grand. Il est un méga souverain sacrificateur. Et pourquoi il est un méga souverain sacrificateur? Le texte nous dit, parce qu'il a traversé un voile. Mais non pas un voile matériel, comme les sacrificateurs de l'Ancien Testament qui ouvraient les rideaux puis qui passaient. Le texte nous dit, il est passé au travers les cieux. Jésus-Christ est un grand souverain sacrificateur parce qu'il a pénétré jusque dans la présence de Dieu. Dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur rentrait dans la présence de Dieu, mais Dieu n'était pas là physiquement. Vous comprenez, là? Il n'est jamais physiquement là, mais Dieu n'était pas là présent. Là. Le texte nous dit que Jésus-Christ, lui, est entré dans la présence de Dieu. Et ce qui fait de lui un grand souverain sacrificateur, c'est qu'il n'est pas entré avec le sang d'un agneau, d'un bouc, mais avec son propre sang, avec le sang de son propre sacrifice. Et voici déjà la première leçon que l'auteur nous laisse ici ce matin. À cause de ce grand souverain sacrificateur-là qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, le texte nous dit « demeurons fermes dans la foi que nous professons ». Littéralement, c'est rester fermement engagé à ce qu'on a professé. Ah, c'est facile de proclamer Christ quand tout va bien. C'est facile de dire qu'on aime Jésus, qu'on va à l'Église, qu'on lit la Bible quand tout va bien, puis qu'on n'a pas d'épreuves, puis que tout est parfait. Mais oh, que c'est combien différent quand les épreuves sont là. Ma fille qui est à la maison vit des moments extrêmement difficiles, est en postpartum, qu'ils disent. Là. Puis la semaine passée, qui dit à sa mère, elle a dit, là, je suis tanné, là. Juste tanné, il faut que ça arrête. C'est pas le fun quand tu es au bout comme ça. Là. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Tu dis, il faut que ça arrête, je suis plus capable. Tu as même des fois des pensées qui peuvent être noires. C'était le cas de ma fille. Mais l'auteur nous dit, parce qu'en Jésus-Christ, il est ton souverain sacrificateur. Il a traversé les cieux. Il est dans la présence de Dieu. Reste ferme. N'abandonne pas. Persévère. Continue. Lâche pas. Parce que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. C'est le grand prêtre. Jésus, en traversant les cieux, a obtenu la gloire qui lui revenait. La gloire qu'il a demandée dans Jean 17, verset 5, « Père, redonne-moi la gloire que j'avais quand j'étais avec toi avant de m'incarner, maintenant que je vais aller mourir sur la croix, alors donne-moi cette gloire-là. » Il la possède. Puis les textes nous disent, puis vous les connaissez, les versets, il est maintenant quoi? Assis à la droite de Dieu en vertu de son sacrifice. Ouais, mais ça, moi, ça ne m'aide pas à persévérer, de savoir que Jésus est assis à la droite de Dieu. Mais ce qui nous aide à persévérer, c'est que son ministère ne se termine pas là. Aujourd'hui, en tant que souverain sacrificateur, il y a le ministère d'intercession. Puis il intercède pour nous. Vous l'avez peut-être déjà ressenti, peut-être déjà vécu. Et si je vous donne un exemple biblique, c'est celui d'Étienne. Un texte que j'ai toujours trouvé extraordinaire puis qui me touche énormément. Alors qu'Étienne, on le lapide. Lève les yeux au ciel. Et qu'est-ce qu'il voit? Jésus debout à la droite de Dieu. Alors qu'Étienne était au seuil de la mort, on s'entend, il se fait lapider. Là. Dans le moment le plus atroce, le plus dur, le plus difficile de sa vie, lève les yeux au ciel et qu'est-ce que Jésus, son souverain sacrificateur, a fait? Il s'est levé pour le secourir, l'encourager, le fortifier. Et quoi le texte nous dit? Il s'endormit. Ben oui, il se fait lapider. Et il est mort en paix parce que son souverain sacrificateur s'est levé du trône pour lui venir en aide. Jésus est maintenant au ciel et il intercède pour vous. Quand vous avez besoin, quand vous êtes dans le trouble, dans les difficultés, il intercède pour vous. Pour vous donner de la force, pour vous donner de la puissance, pour vous donner de la persévérance, pour augmenter votre foi, la capacité de faire face aux épreuves, aux difficultés, il se lève. Voici la première leçon qu'on a, le premier encouragement pour chacun d'entre nous. Peu importe ce par quoi tu passes ce matin, Jésus se lève du trône pour te venir en aide. Mais ce qui est intéressant, dans le verset 15, qui commence par un quart, c'est une explication du fait que Jésus intercède pour nous. Pourquoi il peut le faire? Pourquoi il intercède pour nous? Le texte nous dit « car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Pour démontrer un peu ce verset-là, je vais vous donner un petit exemple de ma vie avec mon épouse. Bon, je vous l'ai dit tantôt, ça fait 30 ans qu'on est mariés. Il y a eu peut-être un 2 ans, 2 et demi de fréquentation avant. Donc, on ne s'en fâche pas d'un fleur du tapis. Là. Ça fait 33 ans qu'on se connaît. Et les premières années de mariage ont été difficiles parce que je savais que mon épouse faisait de l'angoisse. Je savais qu'elle était aux prises avec l'anxiété, le stress. Mais je ne savais pas jusqu'à quel point. Je vous donne un exemple. Quand on se fréquentait, si je lui disais, « Chérie, je vais être là à 6 heures. » Si j'arrivais à 6 heures moins 5, « Qu'est-ce que tu fais ici? » Et 6 heures et 5, « T'étais où? Qu'est-ce qui est arrivé? » J'avais pas beaucoup de buffer, okay, vous comprenez, là. Et il y avait vraiment un stress, mais on passait la soirée ensemble, puis moi, je repartais après. Fait que comment elle avait été avant, puis comment elle était après quand je partais, j'avais une vague idée, mais pas au point de savoir jusqu'où c'était. Les premières années de mariage ont été difficiles parce que là, j'ai constaté jusqu'à quel point elle vivait du stress, de l'angoisse, des difficultés. Vraiment beaucoup plus que ce que je pensais. Et n'étant pas comme ça de base, j'ai vraiment pas été un aide pour elle. Tu sais, moi, tu files pas, tu es stressé, mais là, prends sur toi, ça va passer, là. Mettez pas ça en pratique, OK? Donc, non seulement je n'ai pas aidé, mais je pense que j'ai nui. Peut-être par des fois des gestes que je peux avoir posés, surtout des paroles que j'ai dites. J'ai vraiment pas été l'aide et celui que Dieu me demandait d'être pour ma femme. Jusqu'au jour où Dieu voyait bien que je ne comprenais rien, il m'a dit, là, tu vas comprendre. Il m'a fait passer par une courte épisode d'anxiété puis d'angoisse. Dieu était bon parce que ça n'a pas duré longtemps. Mais assez longtemps pour que je réalise qu'est-ce que ma femme vivait depuis des années. Ah, c'est pas encore parfait, mon aide. J'ai encore du travail à faire. Mais maintenant, je comprends qu'est-ce qu'elle vit. Mes paroles ont changé, mes gestes ont changé parce que je sais qu'est-ce qu'elle vit parce que je l'ai déjà vécu. C'est très, très petit l'image que je vous donne là, mais c'est exactement quand même le point de l'auteur. Pourquoi Jésus peut vous aider? Pourquoi il intercède pour vous? Pourquoi il peut vous venir en aide? Parce qu'il a vécu tout ce que vous vivez. C'est exactement ce que le texte nous dit. Il a été tenté en toutes choses. Puis voyez, le terme au contraire, c'est « Il est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nous parce qu'il a subi tout ce que nous vivons. » Si j'essaie de paraphraser le verset, c'est que Jésus n'est pas étranger à ce que tu vis ce matin. Jésus n'est pas étranger aux défis que tu traverses dans ta vie. Les moments difficiles que je dois relever, les épreuves auxquelles je suis confronté. Tu sais, les jours où tu n'as même pas le goût de te lever le matin parce que c'est trop dur. Mais ces journées-là, ces moments-là, ce qui te touche, ce qui t'affecte, le texte nous dit que Jésus les a déjà vécus. Il n'est donc pas insensible à notre souffrance. Pas parce qu'il pense qu'est-ce que c'est, non, parce qu'il a déjà vécu cette souffrance-là. Moi, ça me touche que le Seigneur Jésus, dans son incarnation, ait accepté volontairement, comme le texte nous le dit, d'être tenté en toutes choses. Puis oui, là, il y a un contexte de tentation, de péché, mais l'idée, elle est là pour les épreuves, les difficultés, les moments difficiles qu'on traverse. Mais Jésus, dans son incarnation, a accepté humainement de subir toutes les souffrances possibles, toutes les douleurs possibles, toutes les angoisses qui existent, jusque même toutes les tentations. Jésus n'est pas étranger à ce que tu vis ce matin. Tu es dans la souffrance, une épreuve terrible, un défi face à un péché quelconque. Confie-toi à Jésus. Confiez-vous au souverain sacrificateur qui va vous écouter et qui va dire « Je te comprends, mon enfant, parce que j'ai déjà passé par là. » Il va se lever de son trône pour intercéder pour vous, pour venir à votre aide. Parce qu'il sait ce que tu vis ce matin. Je me posais la question, pourquoi rajouter à la fin du verset 15 qu'il était tenté en toute chose sans commettre de péché? On le sait, là. On le sait que Jésus n'a pas commis de péché, sinon il y a une bonne partie de la Bible qui n'est pas bonne. Je pense que ce que l'auteur a tout simplement voulu nous laisser comme idée, c'est qu'il est allé jusqu'au bout de chacune des tentations. Dans le sens qu'il n'y a rien de ce que tu vis ce matin qui est trop grand ou trop fort ou une épreuve trop difficile que Jésus n'a pas vécu, parce que lui, il est allé jusqu'au bout de chacune des tentations. Il n'a jamais péché, il n'a jamais cédé. Il n'a jamais abandonné devant la tentation. Il est toujours allé jusqu'au bout pour la vaincre. Donc, peu importe ce que tu vis, peu importe ce par quoi tu passes, il n'y a rien de trop grand, trop dur, trop lourd que Jésus ne peut pas t'aider. Parce qu'il est allé jusqu'au bout de chacune des tentations. Il connaît pleinement l'ampleur de chacune des difficultés. Il est donc ainsi capable de se placer dans chacune de nos situations que nous vivons. Que ce soit pour vous ce matin au travers de ce passage-là, un réconfort, un encouragement à faire comme l'auteur nous dit, à persévérer, à ne pas abandonner et à se tourner vers Jésus-Christ. Et verset 16. Il n'y a rien de mieux pour moi que d'avoir une conclusion qui est directe dans le texte. Je n'ai pas besoin de l'inventer, c'est parfait. Il est probablement meilleur que celle que moi j'aurais inventée. Mais l'auteur nous donne toute cette argumentation-là pour en arriver au verset 16 et nous dire « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi? Pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Voici ce à quoi vous êtes invités ce matin, dans vos difficultés, dans vos épreuves. La première, c'est de s'approcher. Dans l'Épître aux Hébreux, ce verbe est toujours utilisé dans un sens relationnel, c'est-à-dire « soyez en compagnie de ». On se rapproche de Jésus pour être en compagnie de Jésus. Et le lien est facile à faire avec le début du passage qui nous dit qu'on nous avons un grand souverain sacrificateur. On en a un, il est là, il est disponible, approche-toi de lui, va vers lui. Ça, c'est comme si, je vous l'ai dit tantôt, je travaille dans la construction, j'installe des portes-fenêtres. Là, c'est pas un grand métier, là, mais c'est ça. J'ai une trolley d'outils dans mon truck. Là. J'en ai plein. Et si je les utilise pas, à quoi qu'ils me servent? À rien. C'est un peu l'idée qu'on a dans le passage. T'en as un souverain sacrificateur dans le christianisme, bien, approche-toi de lui quand ça va mal. Souvent, c'est quoi notre premier réflexe? Oh, on se détourne. C'est là que tu arrêtes de lire. C'est là que tu arrêtes de venir à l'église. C'est là que tu arrêtes de prier. Comme si Dieu était coupable et responsable de ce qu'on vivait. Au contraire, c'est vers lui qu'on doit aller. C'est vers lui qu'on doit se tourner. Approchons-nous donc de Jésus-Christ. C'est tellement beau que l'auteur nous dise hein, avec assurance. Le sens, c'est avec audace. Pas timidement. Vas-y respectueusement, ça c'est clair, mais vas-y avec audace. N'aie pas peur de dire à Jésus tout ce que tu souffres. Sois honnête, sois direct, sois libre de dire à Dieu ce que tu vis. N'aie pas peur. Approche-toi avec assurance. Je pense que l'auteur voulait faire aussi un contraste avec le mont Sinaï, où tu ne pouvais même pas t'en approcher, mettre le pied dessus, puis tu pouvais mourir. Et là, l'auteur, il dit, approche-toi avec assurance. C'est pas inquiétant. Vas-y avec audace. Jésus ne te reverra jamais. Jésus ne dira jamais, ah, j'ai pas de temps. Jésus ne fera jamais comment. C'est pas si grave que ce que tu vis. Là. Tu vas pas. Non, approche-toi avec assurance. Va vers Jésus. Pour trouver quoi? Du trône de la grâce, pardon. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce. J'aime ça, cette expression-là. Il faut un petit peu la décrire parce qu'on pourrait penser qu'il y a deux trônes dans le ciel. Un trône sur lequel Dieu s'assit pour déverser son jugement et quand il est gracieux, change de trône, déverse sa grâce. Ce n'est pas tout à fait le sens de l'expression. Il ne faut pas penser qu'il y a deux trônes, mais il faut plutôt saisir le sens suivant. L'expression de la grâce est inclue pour caractériser le trône. Le sens littéral, c'est un trône où Dieu dispense sa grâce. Approche-toi du trône où Dieu dispense sa grâce. Puis approche-toi avec audace. Demande à Dieu sa grâce parce que tu souffres, parce que c'est difficile. Le psaume 9:8 nous dit qu'il a dressé son trône pour le jugement. Comment peut-il donc maintenant disposer sa grâce sur ce même trône-là? Eh bien, c'est à cause de Jésus-Christ. Dieu peut déverser sa grâce sur nous. Dieu peut déverser son amour sur nous uniquement en raison du sacrifice de Jésus-Christ mort à la croix. Parce que Jésus est entré dans le lieu très saint avec son propre sang. Il est rentré dans la présence de Dieu et a dit à Dieu, « Déverse maintenant ta grâce sur mon peuple. » Quand ils vont être dans la souffrance, quand ils s'approcheront de toi, quand ils souffriront, déverse ta grâce sur eux. Jean Calvin a dit ceci, « Puisque Dieu a pour ainsi dire placé sur son trône l'étendard de la grâce et de son amour paternel pour nous, il n'y a plus de raison que sa majesté nous en détourne. » Soyez respectueux, mais approchez-vous du trône de grâce pour demander de l'aide à Dieu quand vous souffrez. Et rapidement, pour terminer, le texte nous dit « pour être ou afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Le « afin », c'est la raison de s'approcher de Dieu. Tu vas recevoir quoi? Miséricorde et grâce. Les deux sont souvent utilisés ensemble, deux termes qui peuvent nous paraître presque pareils, mais en fait, les deux termes désignent des choses différentes, mais ils désignent la générosité de Dieu à l'égard du pécheur. La grâce de Dieu, c'est une faveur de Dieu qu'on ne mérite pas, et sa miséricorde, c'est sa bonne volonté de ne pas nous donner quelque chose qu'on mérite. Et l'auteur nous dit, approche-toi du trône de grâce, où Dieu va te donner sa grâce et sa miséricorde, son amour et sa bonté. Et la fin du passage, pour être secouru dans nos besoins. Ah, que le terme secouru est tellement profond, tellement puissant. Littéralement, ce terme parle d'aide. Mais ce secours, le terme « l'aide » qui est utilisé, le terme littéral dans le grec qui est utilisé, parle d'être sorti d'une situation difficile. C'est pas juste « je vais aider mon voisin à sortir ses poubelles ». L'aide dont il est question, le secours dont il est question, nous parle d'être sorti d'une situation extrêmement difficile, pénible. Peut-être que tu le vis ce matin. D'être sorti d'une situation qui peut avoir même de terribles conséquences. Vous lirez le psaume 46, la détresse. Mais le plus bel exemple pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que ce terme-là veut dire, c'est dans Matthieu 14, verset 31, on ne prendra pas le temps de lire le texte, vous le connaissez, je vais juste le résumer un peu, c'est quand Pierre marche sur les eaux. Et quand Pierre commence à s'enfoncer, il demande au Seigneur, « Viens, secours-moi. » Et le texte nous dit que Jésus étendit la main. On ne le sait pas, il était rendu où, Pierre? Peut-être qu'il y avait de l'eau aux genoux, peut-être à la taille, peut-être au cou, mais peut-être aussi un petit peu plus haut, là. Bref, c'est pas important de savoir où Pierre était rendu. On le sait bien, il commence à caler, il est dans une tempête. Si Jésus fait rien, il meurt. Le mot « secours », là, c'est exactement le même. C'est d'être sorti d'un moment extrêmement difficile, extrêmement pénible. C'est ce que Jésus peut faire pour toi ce matin. T'es peut-être dans un moment extrêmement pénible. T'as peut-être de l'eau à cette hauteur-là. Demande à Dieu, secours-moi, et Dieu va étendre sa main. Jésus va étendre sa main pour te sortir de là. Et c'est pour ça que l'auteur, je pense, termine en nous disant pour être secouru dans nos besoins. Je trouve ça un peu dommage que Segond ait utilisé cette traduction-là. Littéralement, comment on aurait dû lire ce texte-là, c'est pour être secouru au moment opportun. S'il y a quelqu'un dans la salle qui a une Darby, là, Darby a traduit de cette façon-là, et ça, c'est le terme littéral. C'est être secouru au moment opportun. Dites-vous qu'il ne sera jamais trop tard de la part de Dieu. Ça va toujours être le moment opportun pour Dieu. Moi, je trouve que des fois, c'est long. Ma fille, cette semaine, a trouvé ça long, elle était tannée. Des fois même, elle se dit, ouais, « Jésus, es-tu dans la barque et il est en train de dormir? » J'y ai dit cette semaine, j'ai dit, « Faites-en pas, il va se réveiller un moment donné. » On ne sait pas quand. Il va se réveiller. Puis ce que ce texte-là nous dit, c'est qu'il va se réveiller quand? Au moment opportun. Il ne sera jamais trop tard. Jésus ne vous laissera jamais aller trop loin au moment opportun, à son moment à lui, quand lui va le décider, quand vous allez avoir tellement crié, il va étendre la main et il va vous secourir. Dans un autre langage, peut-être commun d'aujourd'hui, il ne vous laissera jamais tomber. Jamais! Oh, vous allez peut-être trouver ça long. Ça va peut-être vous demander beaucoup de patience. Peut-être que vous allez vous épuiser à crier et à demander de l'aide. Mais au moment opportun, notre souverain sacrificateur va se lever du trône et va étendre la main pour vous secourir. Que ces paroles puissent vous encourager et vous fortifier ce matin. Peu importe ce que tu vis, peu importe l'ampleur de la souffrance, de la difficulté, de l'épreuve, de la tentation, Jésus est là. Il ne t'abandonnera pas. Il comprend tout ce que tu vis. Il sait exactement ce par quoi tu traverses. Et au moment opportun, il va étendre la main et il va te sortir de là. Je termine par un petit mot de prière. Père Céleste, Seigneur Dieu, on est extrêmement reconnaissant pour le temps qu'on vient de prendre ensemble ce matin dans ta parole. Évidemment, je veux premièrement te remercier pour le ministère de la Villa du Carmel. C'est ton œuvre, c'est ton ministère. Nous, on est juste des ouvriers dans cette œuvre-là. Puis, on te prie de continuer à pourvoir en toutes choses, pourvoir dans le matériel, les personnes financièrement, puis que tu puisses vraiment, Seigneur, faire grandir encore cette œuvre-là. Je te prie également pour tous mes frères et mes sœurs qui sont ici. Tu connais leur situation, tu connais leurs besoins. Tu sais jusqu'à quel point ils sont présentement, comme Pierre, peut-être en train de s'enfoncer, qui vivent dans de la souffrance, dans de la douleur, des moments extrêmement difficiles. Et je te prie de leur accorder ta foi. Je te prie de leur accorder de la persévérance. Je te prie, Seigneur, de les pousser à s'approcher du trône de la grâce avec assurance pour demander ton secours, demander ton aide. Demander, Seigneur, que tu étendes la main pour les secourir au moment opportun. Ah, quel privilège, Seigneur, de pouvoir compter sur toi et de savoir que tu ne nous abandonneras jamais. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs et bénis ton peuple qui est ici. Bénis leur ministère, que leur flambeau puisse continuer à brûler, qu'ils puissent refléter l'amour de Jésus dans leur communauté et dans leur vie. Dans le nom de ton Fils. Amen.